Bonsoir et bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour ce Nord Politique spécial. Ce soir consacré, cette émission au sommet sur l'intelligence artificielle. L'IA avec nous demain à Lille. S'en suivra un festival en région. On va en parler avec nos invités. On va surtout tenter de répondre à plusieurs questions. Comment l'intelligence artificielle a-t-elle déjà changé notre vie et comment vivre avec? Comment les politiques publiques doivent-elles aussi s'adapter? Et si ce n'est pas déjà le cas, accompagner ces changements? Quel cadre légal aussi faut-il appliquer? Sûrement pour maîtriser un outil aussi riche en perspectives, mais pour certains peut-être inquiétant sur certains aspects. Je le disais, nos invités ce matin, vous le connaissez peut-être, il vient tous les mardis, Sam Damani, le directeur général de la French Tech Lille. Bonsoir Sam.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
À vos côtés, Alexandre Basquin, sénateur du Parti communiste, auteur d'un essai numérique, stop à l'exploitation. Bonsoir.
Bonsoir.
Et face à vous, Florence Barisot, vice-présidente de la région en charge de la ruralité, la proximité, les solidarités, la politique de l'eau, mais aussi le numérique.
Bonsoir.
C'est important. Et enfin, Vincent Dupourreau, conseiller de la métropole européenne de Lille en charge de la stratégie numérique du territoire.
Bonsoir.
Voilà, quatre invités autour de la table pour débattre de l'intelligence artificielle et de ce sommet l'IA avec nous demain à Lille. Et donc plus de 18 mois après ce premier sommet à Paris, et une semaine tout juste après les investissements massifs annoncés par Choose France, la région accueille donc ce second temps fort dédié à l'intelligence artificielle avec une question centrale. Quels sont les usages de l'IA aujourd'hui et demain? Surtout, en fait, la question n'est plus que pourra faire l'IA, mais que fait-elle déjà et que voulons-nous en faire? Première question avec Florence Barisot, puisque je crois que c'est la région qui co-organise effectivement ce salon à partir de demain, et le festival aussi partout en région. Pourquoi faire un sommet sur l'IA?
Alors, le sommet, c'est le coup d'envoi, vous l'avez dit. Ensuite, du 13 au 19 juin, il y a plus de 300 événements pour tout le monde. IA et habitants amiens, IA et entreprises, IA et santé, IA et biodiversité. Pour démontrer que la région est prête. Elle est prête puisque nous avons une énergie décarbonée, puisque nous avons les data centers, puisque nous avons la fibre, puisque nous avons les laboratoires de recherche. Pour démontrer qu'elle est engagée et qu'elle est populaire. Parce que le grand défi, vous parliez des cas d'usage, c'est bien d'embarquer tout le monde. C'est l'IA pour tous et avec tous.
C'est primordial, Sam Damani, à la French Tech, évidemment, la réponse, on la connaît. Mais c'est primordial de suivre le mouvement, de ne pas être en retard.
Alors, en retard, on l'est malheureusement déjà au niveau mondial. On a les Américains, les Chinois qui ne nous ont pas attendus pour surinvestir dans l'utilisation de l'IA. La chance que l'on a en France, c'est qu'on a un terreau extrêmement fertile. Ça a été évoqué sur les infrastructures, sur le prix à la prise, décarboné, très compétitif. Mais on a aussi des talents qui sont là pour pouvoir nous aider à rattraper ce retard. En 2025, c'est 14 milliards d'euros sur l'intelligence artificielle, rien qu'en France. On est le premier pays d'Europe à ce niveau-là.
Ouais, des milliards d'euros qui ont été annoncés par Choose France. C'est plus de 80 milliards d'euros qui ont été annoncés dans la région. Et Vincent Ducourau, il n'y avait pas d'investissement dans la MEL. Vous n'êtes pas un peu jaloux? Ou finalement, la métropole européenne de Lille a déjà, avec Aura Technologies notamment, un pôle d'excellence?
Non, pas jaloux, parce qu'on a déjà effectivement Aura Technologies. On a beaucoup d'entreprises qui sont déjà présentes et déjà leaders sur ce sujet-là dans la métropole. Et puis, on a effectivement beaucoup d'infrastructures qui sont déjà présentes, alors qui sont soit aujourd'hui déjà effectives, soit en période avec l'inférence de transformation pour les data centers, histoire qu'ils soient plus performants par rapport aux nouvelles utilisations de l'IA qu'on en a. En tout cas, aujourd'hui, on a tout ce qui est nécessaire d'avoir, effectivement, si on rajoute en plus l'énergie décarbonée, qui est un volet très important de la compétitivité française.
Alexandre Basquin, autant l'avouer, vous serez un peu notre caution contradictoire ce soir. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, d'un essai numérique stop à l'exploitation. Ces investissements aujourd'hui, selon vous, ils sont nécessaires ou on en fait trop?
On en fait beaucoup trop. On est face à une course au gigantisme mortifère, à mon sens, tant sur le plan social qu'économique même, et environnemental. On nous porte un mirage extraordinaire en termes d'emploi, alors que quand on prend le recul et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, on voit que c'est pas forcément créateur d'emplois, loin de là d'ailleurs. Par contre, ça artificialise des sols au détriment de notre environnement commun, de notre bien-être et surtout des emplois.
Ouais. La volonté de l'intelligence artificielle, c'est de servir le développement, l'avenir de la région. Mais comment?
Ah bah, déjà, évidemment, je ne partage pas votre scepticisme et je dirais que je ne partage pas votre déni de réalité. L'IA est là. 83 milliards d'euros investis par des Japonais, par des Canadiens, par des Néerlandais. On estime que 1 000 emplois directs dans les data centers, donc des emplois d'exploitation, vont générer 4 à 5 fois plus. Donc ça fait déjà 4 à 5 000 emplois, sans compter évidemment les emplois sur chantier. L'enjeu, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner les lycéens, d'accompagner les demandeurs d'emploi et ceux qui se forment pour ne pas rater le train. À chaque progrès technologique, on a eu peur. On a eu peur de l'électricité, on a eu peur de la voiture. Et l'enjeu, c'est vraiment le cas d'usage, l'accompagnement, la formation, pour ne laisser personne sur le côté.
Sur le volet économique, parce qu'on parle d'emploi, il est aussi question de créer de la valeur, de la richesse. Et aujourd'hui, on est sur une technologie qui, grosso modo, avec l'implantation de data centers et d'infrastructures, on parle beaucoup de data centers, c'est un gros mot pour parler de plusieurs choses. Voilà, exactement. On va utiliser en fait la puissance électrique dont on dispose en France, dont on dispose souvent en surplus, pour créer de l'intelligence. Cette intelligence-là, aujourd'hui, elle est déjà produite aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Autant la produire en France, l'exporter ailleurs, et ça aujourd'hui on est capable de le faire, et c'est pour ça qu'on pousse pour effectivement créer des nouvelles infrastructures, qu'elles soient génératrices d'emplois. Bien évidemment, on va pas faire le calcul de combien, ce qui compte c'est créer de la valeur, créer de la richesse, plutôt qu'aller l'importer d'autres pays.
C'est aussi une question de souveraineté.
Elle a déjà créé de la richesse, cette intelligence artificielle, avec Aura Technologie, avec cet incubateur et toutes ces jeunes entreprises, et en gros des perspectives d'avenir.
Elle est ancrée tous les jours. En fait, je reviens d'un voyage en Chine, en Asie d'ailleurs en général, ils ne se posent pas la question est-ce que ça va tuer ou pas de l'emploi. Alors oui, il y a des emplois qui vont être remis en avant là où il y a un gros déficit. On ne prend pas en compte en fait la démographie. On a un vieillissement de la population. En Chine, au Japon, c'est comment la robotique qui va utiliser de l'IA va pouvoir aider à compenser une main-d'œuvre indispensable à ce vieillissement de la population. Je pense aux hôpitaux. On a 60% des tâches par les professionnels hospitaliers qui sont sur l'administratif. La valeur ajoutée est nulle. Donc l'IA, il ne faut pas le voir comme étant une menace, mais plutôt comme un facilitateur. On l'a toujours pris sur un prisme de compétitivité ou de surexploitation. En fait, ça peut être avant tout un outil pour se reconcentrer sur son expertise, aider les gens tout en retirant soit les tâches répétitives, soit dans l'industrie en poussant un peu plus de robotique pour retirer la pénibilité ou les dangers.
Il y a dans votre secteur, puisque
vous direz ça, monsieur, excusez-moi, mais vous direz ça, monsieur, à tous ceux qui sont inquiets de la perte future de leur emploi, et notamment à ceux qui mettent en œuvre le contre-sommet de l'IA, les traducteurs, les comédiens de voix.
Rassurer et accompagner.
Oui, et l'Observatoire national des emplois émergents et menacés estime à 5 millions d'emplois menacés d'ici les prochaines années. Je veux bien qu'on parle de création de richesses, de gains de compétitivité, de croissance, etc. Mais pour qui et pourquoi ?
Sur le territoire, à Écodin, à Bouchain, je crois, Alexandre Basquin, il y a des data centers, des centres de calcul qui vont s'implanter sur des friches, notamment celle d'Usinor. Ouais. C'est une requalification, c'est pas positif ?
La requalification, c'est surtout de l'artificialisation aussi, et qui aurait pu être dévolu à des bases productives durables. Moi, je veux bien qu'on parle d'emploi, mais quand on reprend le recul, et notamment, je ne prends qu'un exemple, mais le data center, le data 4 au campus de Marcoussis, sur 133 hectares, qui correspond à 190 terrains de football, il y a 165 postes sur site. C'est ça la réalité, c'est-à-dire un poste par hectare. Quand une entreprise logistique crée entre 10 et 15 postes par hectare, quand une entreprise industrielle crée beaucoup plus. Et c'est ça la réalité. Et pourtant, ça mange du foncier, ça détruit notre environnement. Les data centers, d'ailleurs, en émissions de CO2, en gaz à effet de serre, ont progressé de 23% la seule année dernière. Et pourtant, on continue dans cette voie. Je pense qu'il faut prendre plutôt une alternative et pas celle-là, en tout cas.
Bon, monsieur a raison sur un point. Si je me permets. Ça génère de la peur et il faut sensibiliser, il faut l'entendre, il faut aussi accepter qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Mais si ces emplois, c'est comme dans les années 30, tourner des boulons, j'ai envie de dire, tant mieux que ces emplois disparaissent.
Oui, ou les métiers tissés.
Voilà. À un moment, il faut bien sûr concilier cette avancée technologique avec la formation du plus grand nombre, et c'est d'ailleurs ce que la région fait, parce qu'on a du foncier qui nous permet d'avoir ces data centers. On parlera de l'aspect écologique après, ce qui est important aussi. Mais en tout cas, c'est à chaque gros acteurs qui implantent un data center, il y a une obligation d'aller former la population. Et on l'a déjà fait sur un autre secteur, celui de la batterie électrique. Regardez Vercor à Dunkerque. Moi, j'ai rencontré des centaines de salariés qui disent « Je venais de secteurs d'activité totalement différents, voire j'étais sans emploi au minima sociaux, et j'ai été formé par une école interne à Vercor. Et c'est 600 emplois qui sont créés avec des personnes qui n'étaient pas qualifiées à cela, qui sont montées en compétences en quelques semaines. » On va faire la même chose là-dessus.
Ça va réduire réduire la pénibilité, voire même ça va accompagner la sécurité. Je pense à un domaine que je connais bien, qui est le domaine du bâtiment, où l'IA aujourd'hui permet de détecter, par exemple, les zones à risque.
Alors, au-delà même du débat pour ou contre l'IA, dont on reparlera sûrement peut-être tout à l'heure, juste pour revenir sur ce sommet en fait de l'intelligence artificielle, je vous demandais pourquoi faire. Vous voyez qu'il y a un débat, effectivement. Est-ce que c'est pas un peu élitiste quand on parle des leaders de l'IA qui sont invités demain? Est-ce que c'est suffisamment grand public?
L'objectif, c'est tout l'inverse. C'est que ça soit très pédagogique, très très accessible, très pédagogique. Donc c'est, l'objectif est totalement inversé par rapport à ce que vous venez de dire. Et le festival est là aussi pour ça. À Amiens, c'est un festival pour les familles et les habitants. Il y a des jeux immersifs, il y a un escape game pour découvrir l'IA autrement.
Alexandre Basquin, en fait, cette peur, on l'entend, effectivement, moi-même, mes enfants, je ne vais pas vous cacher, collégiens ou autres, en termes de formation, on se pose des questions. Mais on est d'accord que le train est lancé vis-à-vis des pays étrangers et que c'est un enjeu aussi, quelque part, économique, de suivre le mouvement.
Ben, c'est l'argument qui est souvent avancé, cette obligation de compétitivité à tout prix. Moi, je pars pas de ce postulat. Je considère qu'effectivement, ça peut être aussi un alibi. Et on le voit d'ailleurs à travers le monde, cette intelligence artificielle pour licencier, pour supprimer des emplois. 15 000 à Microsoft, autant à Facebook, pareil à OpenAI. C'est d'ailleurs un alibi pour faire voir, vous voyez, l'IA remplace les humains. Et c'est des logiques de marché extrêmement prégnantes. Donc moi, je suis beaucoup plus réservé et je m'éloigne d'une certaine forme de technophilie un peu béate que mes collègues sur le plateau ont tendance à faire avancer et émerger.
Et vous n'êtes pas invité demain.
Je suis blonde, mais pas béate.
Vous n'êtes pas invité demain pendant le sommet pour justement pondérer.
J'irai au sommet de l'IA, effectivement, mais pas au sommet.
Bon, attendez, moi je ne fais pas partie des collègues puisque la French Tech, c'est avant tout, mais en tant que vous êtes tous représentants politiques, moi je suis représentant économique. Et donc on est très paysan dans le sens pragmatique. Une entreprise, ça doit générer des solutions qui doivent répondre à des besoins que des consommateurs, vous et moi, allez répondre. Ce qui m'importe avant tout, c'est que aujourd'hui, 48% de la population utilise déjà l'IA. On est dans un marché qui est mondialisé et si on décide de faire autrement des autres, on va plutôt se mettre de côté. Et on a aussi 40% qui se disent prêts à aller un peu plus loin dans l'utilisation de l'IA au quotidien, mais 75% on ont peur et veulent être formés. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent le repousser. Source établie dans un article de Le Monde la semaine dernière, 75% veulent être formés à cela. Donc à nous d'embrasser cette crainte et d'aller dans l'accompagnement pour l'utilisation.
Et la question qu'il faut poser à M. Basquin, c'est est-ce qu'il souhaite que l'intelligence artificielle qui soit utilisée par ses attachés parlementaires qui lui remettent des notes de temps en temps, est-ce qu'elle soit française et produite avec de l'énergie française ou est-ce qu'elle soit importée depuis les États-Unis, la Chine?
Même si les investissements sont des entreprises japonaises, canadiennes, néerlandaises.
Évidemment.
Mais
ce n'est
pas les Chinois, ce n'est pas les Américains. Japon, Canada, néerlandais.
Mais c'est pas
et quand
français,
même,
c'est
ça
pas
serait
français.
Eux. Oui, mais ce serait des impôts, des investissements directs étrangers. Ça a cours en France depuis très longtemps et c'est une très bonne chose et c'est une bonne dynamique pour l'emploi, pour la compétitivité et pour la production de richesse.
Et puis tiens, un exemple, on va lancer un appel à projet pour les lycées, hein, et notamment pour la cantine connectée. Bah, la cantine connectée, ça lutte contre le gaspillage
très honnêtement, ça va nous projeter vers l'avenir.
Ah, mais vous parlez d'environnement, ça va lutter contre le gaspillage alimentaire.
Je trouve ça extrêmement caricatural, Madame Barizot. Franchement,
ah bah, c'est pas caricatural,
la cantine connectée. Et les gens qui souhaitent ne pas être connectés.
Mais non, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est quand vous allez ramener votre plateau.
Oui, oui, mais
c'est concret. Ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui. Vous pouvez quand même pas être contre ça.
Oui, et il y a aussi toutes les logiques de digitalisation et de dématérialisation qui aujourd'hui excluent une grande partie de la population. On n'en parle jamais. Où il y a 36% des personnes qui ne recourent pas à leurs droits et au RSA parce qu'il y a les logiques de dématérialisation. Et 50% qui ne recourent pas à l'allocation minimum vieillesse parce que...
Nous accompagnons l'électricité.
Il y a un travail, justement, alors peut-être que dans la métropole européenne de Lille, effectivement, où c'est beaucoup plus urbain, on est un petit peu plus connecté, effectivement. En région, il y a un accompagnement dans les territoires ruraux, puisque c'est une de vos délégations.
Alors,
aussi,
bien
Florence
sûr, on
Marizot,
accompagne les collectivités locales. Il y a d'ailleurs un événement dans le festival qui est dédié au cas d'usage dans les collectivités. Donc j'ai parlé de la cantine, mais il y a aussi un système qui permet de libérer les places de parking, ou en tout cas de savoir où il y en a, pour la mobilité. Donc bien sûr qu'on va dans tous les territoires, je ne suis pas sûre que...
Mais ce n'est pas encore un peu abstrait quand même pour certaines personnes, certains habitants quand même, l'intelligence artificielle.
Alors si, il faut laisser personne de côté, ça je suis complètement d'accord. Comme on lutte contre l'illettrisme, il faut lutter aussi contre l'électronisme et contre la peur de l'IA. Mais le mot d'ordre c'est accompagner, former. On va former, dès lors où la région investira dans une formation, il y aura un module Agilité IA. On a l'ambition avec France Travail de former 25 000 demandeurs d'emploi. Parce que si on ne prend pas le train, c'est là qu'il va y avoir des emplois.
Et dans les lycées, alors l'apprentissage globalement c'est l'éducation nationale, c'est pas oui. la région qui en décide, mais il y a un cadre à poser quand
oui,
même
parce qu'on,
dans les lycées de la région.
On participe à ce qu'on appelle l'ENT, l'environnement numérique de travail, on est les premiers en Europe, et oui, on va lancer un appel à projet pour des compagnons d'apprentissage ou pour aider à l'orientation.
Vous en servez de l'intelligence artificielle régulièrement ?
Tous les jours. Et en fait, ce qu'il faut expliquer aux gens, parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a, dans les années 2000, il y a une peur panique qui s'est développée, c'est la numérisation des procédures. Mmh. On avait le sentiment qu'on n'allait plus avoir personne en face de soi, qu'on n'allait plus pouvoir faire son permis de conduire à la préfecture et faire la queue alors qu'on adorait faire la queue. Aujourd'hui, globalement, quand on fait le bilan avec le tissu qui est demeuré dans les mairies, à la préfecture, et même sur des réponses en ligne, maintenant via le site des impôts, etc., on a une numérisation des procédures qui a été bénéfique, avec un gain de temps total pour les personnes, avec une exclusion qui a été limitée parce qu'il y a eu des problèmes qui ont été adaptés. Et il faut faire exactement la même chose sur l'intelligence artificielle.
Je suis d'accord avec Alexandre Bascam, mais enfin, il faut quand même reconnaître que certains serveurs vocaux et services clients, parfois, c'est un peu compliqué.
Ah oui, mais vous ne parlez pas de l'État, là. Nous, sur les politiques de l'État, en tout cas, et sur les centres des impôts, etc., la numérisation des procédures, 95% des gens vous diront que ça a été une chose excellente. Et l'État...
Vous n'avez pas lu le dernier rapport de la Défenseur des droits, monsieur ?
Mais si, bien sûr, je le lis, c'est mon livre de chevet.
Qu'est-ce que vous avez lu ? 61% des usagers considèrent que la dématérialisation est un frein et une difficulté, y compris chez les jeunes et les cadres. Donc on ne vit pas la même vie.
Ça va libérer du temps pour la proximité humaine, ça j'en suis convaincue.
La vraie question, c'est quelle société on veut ? Si je caricaturais un petit peu... On a les États-Unis qui dérégulent à foison. Voilà, on régulera après, d'abord utiliser, surperformer économiquement et aller chercher les marchés dans le monde entier. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on est dans un terrain de jeu qui est mondial. On a la Chine qui est plutôt dans l'exploitation, eux, de l'IA pour la productivité, la surproductivité. Hein, et pour faire mieux, plus vite et moins cher. Et là, ça met en péril nos emplois véritablement bien pire que ce que j'ai entendu. Et nous, on est en Europe, alors caricaturalement, on dit « nous, on régule avant de faire ». Mais la vérité, c'est qu'on prend soin de nos collaborateurs. On met en place des limites pour que les réseaux sociaux n'abrutissent pas trop notre jeunesse pour qu'elle puisse s'épanouir différemment. Parce qu'on a des études qui ont montré qu'il y avait de la détresse psychologique là-dessus. Et on a la chance d'avoir... tout un socle de valeurs européens qui nous pousse aussi à mettre en place un IA régulé avec des actes qui nous permettent de pouvoir protéger la population tout en ne ralentissant pas la marche de l'économie au sens large.
Non, pas du tout. Il y a en ce moment en discussion au sein de l'Union européenne un omnibus digital sous le lobbying puissant des géants du numérique pour déréguler. Pour revenir sur le règlement général de la protection des données, pour ne citer que cet exemple.
Mais vous avez raison, mais ce sont les Américains qui font ça, et nous on essaye justement de
récupérer la souveraineté. Voilà, c'est bien ça, pour ça qu'on va être la vallée de l'Europe, la région des Hauts-de-France,
mais
pour garder notre souveraineté.
Avec qui ?
Souveraineté sur notre territoire.
Bah, des acteurs
français, et
pour
éviter que ce soit les Américains qui
changent nos données. Alors là, j'ai un exemple très concret. Par la défense.
Peut-être demain.
Et au sommet de l'IA, ça sera évoqué, puisqu'on aura quelques belles sociétés comme ChapVision ou H Company, qui sont des parfaits exemples de souveraineté, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi et on maintient cet emploi ici sur le territoire, et qui sont en compétition avec des gens américains. Palantir, qui est quand même la boîte IA de défense la plus connue, la plus efficace aussi au monde, a été retirée de la sécurité allemande pour prendre une société française, ChapVision. Et donc, ça, on revient sur une maîtrise de la donnée avec des normes européennes qui protègent nos collaborateurs.
Et la DGSI transmet ces données à Palantir.
Mais il y en a d'autres. Cloud Temple et OVH aujourd'hui sont des entreprises qui promeuvent un cloud social et des données qui soient stockées en France, etc. Donc, on a des champions français, Mistral, tout le monde l'a en tête, évidemment. Et je voudrais revenir sur la question de l'accès aux droits et de cette question de la connaissance des données. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un tas de personnes qui abandonnaient le RSA ou un certain nombre de droits sociaux parce que la numérisation, la déconnexion, etc. Mais qui mieux aujourd'hui qu'une intelligence artificielle peut vous faire une analyse en fonction de vos ressources, de vos besoins, etc. Et de là où vous habitez, de vos droits et de vos accès aux droits. Demain, je vous le dis, vous ne manquerez plus l'accès aux droits grâce justement aux questions que vous poserez à une intelligence artificielle et vous pourrez aller faire vos démarches en mairie, automatiser, etc. Ça va être une opportunité.
Mais ça libérera du temps à Jean pour téléphoner s'il y a besoin.
Ce que vous demandez, c'est des garde-fous, Alexandre Bascam, avant tout, et ce qui selon vous n'existe pas suffisamment aujourd'hui ou pas du tout.
C'est intéressant ça, qu'est-ce que vous demandez ?
Moi, je suis favorable, et je vais le dire très franchement, à l'interdiction de l'intelligence artificielle générative.
Ok.
Je le dis.
Générative, c'est intéressant. Il y a la moitié de la population qui l'utilise déjà.
On et... interdit la moitié de la population.
Ah, c'est pas. C'est très fou.
Non. Ou on interdit contre, alors, à la moitié de la population.
Dites-moi pourquoi.
D'utiliser l'IA.
Yosha Bengio.
C'est vachement répressif.
Dites-moi pourquoi le professeur Yosha Bengio, qui est l'inventeur du deep learning, de l'apprentissage profond, demande aujourd'hui un moratoire sur l'intelligence artificielle.
C'est pas fort à l'inviter la prochaine fois.
Mais non, mais parce qu'il considère qu'il y a des risques éminents au regard des usages, mais aussi des risques environnementaux prégnants. Mmh. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Yosha Bengio. Et il y en a beaucoup d'autres. Et allez voir du côté de Marseille, où il y a eu des implantations de data centers, c'est le 6e hub mondial, et pourtant il y a des moratoires qui sont demandés, y compris par les élus locaux, parce que ça concurrence, et il y a des conflits d'usage, y compris avec les industries tournées vers la transition énergétique. C'est ça aussi
mais
une réalité qu'il faut que vous ayez en tête.
Mais le fait que l'IA soit européenne va permettre,
elle est pas européenne.
Vous disiez exactement, va permettre de réguler.
Mais, madame,
si
exemple,
on laisse tout aux Chinois
européenne.
Et aux Américains, ça c'est sûr qu'on risque pas de réguler.
Avec des fonds canadiens, japonais.
Oui.
Et que vous considérez qu'elle est européenne. Et avec Mistral, dont on parle beaucoup,
dont
une grande partie de l'actionnariat est américain, et notamment IBM par exemple.
Mais je veux dire, il faut tout mettre sur la table. Mais, oui.
C'est un vrai débat, en tout cas, qui aura peut-être lieu demain ou pas lors du sommet de l'IA.
Je crois pas, non.
En tout cas, peut-être dans ce festival. Il y a effectivement un festival de l'anti-IA qui est prévu ce week-end, là où vous serez. Effectivement, pour revenir
pour
aussi.
Soutenir les traductrices et les traducteurs qui ont extrêmement peur pour leur avenir demain.
C'est quand même. Vous vous rendez compte, peut-être un combat utopique. On dit que la machine est lancée. Quand je disais, voilà, vous voulez des garde-fous, vous êtes aussi là pour faire une contradiction, ou vous pensez vraiment qu'on peut interdire l'intelligence artificielle ?
Non, mais il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, l'université américaine du MIT énonce qu'il y a 777 risques dédiés à l'usage de l'intelligence artificielle générative, et notamment la perte d'autonomie ou la dépendance affective. Et il n'y a pas que ça. Et je pense aussi aux enjeux environnementaux dont on parle trop peu. La consommation énergétique, il y a un moratoire aussi du côté de Dublin, puisque la capacité électrique est siphonnée par les data centers de la région de Dublin à hauteur de 50%. Donc il y a de réels conflits d'usage. Il y a un moratoire qui a été demandé aux États-Unis également, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump commence à réguler un peu. Il y a un article du Monde qui est paru il y a quelques jours pour une certaine forme de régulation qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais donc les choses bougent quand même. Il y a des contestations un peu partout. Il y a les étudiants américains qui sifflent Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, lors de la remise des diplômes dans une université à San Francisco, parce que Schmidt parle de l'IA. Enfin, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui sont légitimes parce que l'avenir n'est pas forcément.
La question, c'est qu'on ne peut pas tout donner
favorable
à l'IA non plus.
Non, mais c'est pas l'idée. L'IA, c'est bien un outil. Vous parliez d'environnement. On a une énergie décarbonée dans les Hauts-de-France. Et puis je vais vous poser une question peut-être personnelle. Est-ce que vous aimez les avocats, le fruit ? Parce que quand vous mangez un avocat, par rapport à la consommation d'eau que nécessite la culture de l'avocat, ça équivaut à 1000 recherches sur l'IA. Mmh. Donc, il y a aussi des fake news qui circulent.
Moi j'aime bien cette notion. L'IA, faut le dépassionner. Faut le voir comme un outil. Et un outil, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Je vais prendre l'exemple d'un couteau. C'est un outil qui est formidable, qui va pouvoir nous aider à trancher son steak ou son avocat, mais qui peut, dans des circonstances dramatiques, être utilisé comme une arme. On a donc une législation, une réglementation, et la chance que l'on a, c'est qu'on a l'Europe, au-delà du national, qui nous permet d'avoir cette régulation consciente de ces différents biais qu'on peut avoir, mais aussi consciente que les autres continents ne nous attendent pas. Et le but, c'est de trouver ce bel équilibre. Et je reviens à ma question, quelle société voulons-nous ?
Voilà. Et ça doit être travaillé avec les fonctionnaires aussi. Nous, on est en train de mettre en place une politique de l'IA au sein de la métropole européenne de Lille, parce que nécessairement, comme toute organisation, on regarde ça passer. Et ben, on travaille. Là, on a une journée complète la semaine prochaine de travail avec l'ensemble des agents, et on a même une conférence qui est ouverte à l'ensemble des métropolitains à 18h pour travailler comment on utilise l'intelligence générative, mais pas que, parce qu'on parle de l'IA générative, et j'ai noté que vous vouliez l'interdire celle-là, mais il y a un tas d'intelligences artificielles qui n'ont pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour exister. En fait, intelligence artificielle, on met beaucoup de choses derrière. Nous, aujourd'hui, on détecte...
On
n'en
a pas parlé, mais il y a santé, il y a...
Mais bien
oui,
sûr,
ça
sauve
déjà de vie.
En fait, c'est juste vie, comment on arrive à traiter de la donnée, à automatiser du traitement de la donnée, mais c'est des choses qui sont faites depuis la nuit des temps. Ces automatisations de process, là, c'est juste qu'on parle d'automatisation d'utilisation de la donnée, et donc, le secteur public a un nombre de données données incalculables à sa disposition. Aujourd'hui, on a un tas de programmes écologiques, d'aménagement du territoire, de préservation de la biodiversité qui peuvent être dopés à l'IA, et on le fait déjà aujourd'hui à la métropole européenne de Lille en analysant les photos qu'on a aériennes pour voir justement là où on a des points chauds, des zones où on a peu d'espace vert, etc., pour permettre demain d'aménager le territoire et de rendre service à l'écologie.
Ça, c'est une utilisation intelligence. De l'intelligence artificielle.
On souhaite qu'il y en ait d'autres, effectivement. Merci en tout cas à tous les quatre. Le débat pourrait continuer longtemps. Peut-être qu'on en parlera encore demain, d'ailleurs, lors de notre émission spéciale. Soyez au rendez-vous demain sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral à 17h avec Vincent Vieillard et ses invités en plateau depuis le sommet de l'IA dans les allées du sommet avec des invités. D'autres débats, le sommet de l'IA à vivre à Lille. Demain sur nos antennes pendant une heure de 17h à 18h sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci. À vous quatre, vos invités ce soir, Sam Damani, la French Tech, Alexandre Basquin, sénateur communiste, Vincent Ducourou, conseiller à la MEL, et Florence Barrizo, vice-présidente à la région. Merci à Marine Kijek pour la réalisation de cette émission ce soir. Et très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.